Vous écoutez La Grenouille, c'est pour l'heure qui vient la deuxième émission consacrée à Small is Beautiful, cette manifestation d'art de rue organisée par Lieu Public à Marseille, à Martigues et à Aubagne du 5 au 16 octobre. Sur La Grenouille, c'est du 7 au 16 octobre. Hier, nous étions en compagnie de Jean-Georges Tartar. Ce soir, nous sommes en compagnie de Laurent Petit. On va passer une petite heure avec lui. Laurent Petit, vous l'avez entendu hier dans une chronique de psychanalyse urbaine, une première chronique du Grand Marseille. Là, on va passer toute l'heure avec lui. On entendra également une seconde chronique sur le Grand Marseille. Donc, Laurent Petit, membre éminent de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, une agence qui, par exemple, considère qu'IKEA est l'opium des couples, que pour revitaliser certains quartiers, on peut mettre, ou villes, on peut mettre en place des trucs qui sont des traitements radicaux urbains ou des TRA, des traitements radicaux architecturaux. Ils imaginent aussi des ZOB. Alors le ZOB, c'est la zone d'occupation bucolique. Ça sert à recréer du lien social. Ils ont également à leur actif le TRGV, le tapis roulant à grande vitesse, ou le QAS, le quartier autosuffisant. Bref, tout un tas de dispositifs très utiles, vous l'imaginez, aux villes, qui invitent l'Agence nationale de psychanalyse urbaine à venir les ausculter. La Grenouille est à la fois, pendant ces 10 jours, à la fois sur Small is Beautiful à Marseille, Martigues et Aubagne, mais à la fois aussi sur Evento à Bordeaux, où là aussi les questions de création artistique et de ville. Et je crois que Laurent Petit, vous avez également une jambe à Small is Beautiful et une autre à Evento, ou je me trompe?
Vous vous trompez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un événement où justement les gens se posent la question de créer des liens entre l'artistique et l'urbain, avec un souci de proposer des propositions, des solutions innovantes aux problématiques urbaines aujourd'hui. Donc on a un œil sur cette manifestation, en sachant qu'on a découvert hier qu'il y avait une famille entière qui s'était installée sur une île flottante sur la Garonne pour faire une expérience de vie aquatique. Mais c'est une famille avec des enfants, ils jouent au ping-pong, on les voit sur des photos. Et c'est une solution qu'on avait proposée lors de la psychanalyse urbaine de la communauté urbaine de Bordeaux. On l'avait baptisé cette opération Bouillon Cube. On avait mis en évidence cette occupation de la Garonne qui était à étudier. Et là, il y a eu tout de suite des propositions qui se sont faites dans ce sens. Et je vous avouerai qu'on a été un peu émus de découvrir cette famille en train d'essayer de survivre au milieu d'une rivière qui est quand même assez hostile et qui n'a cesse de fluer, de refluer à cause de la marée.
La NPU était déjà venue dans le cadre de Small is Beautiful il y a 2 ans, en 2009.
Ça ? Oui, on avait commencé nos travaux sur la région il y a 2 ans maintenant, avec une étude menée sur Marseille via le filtre de la Belle de Mai. On avait présenté nos travaux dans une ambiance extraordinaire, dans l'église même de la place Cafo, à l'invitation du prêtre qui officie là-bas, et c'était vraiment émouvant de présenter nos travaux dans cet endroit. L'année dernière, on a travaillé à Aubagne, l'opération Au Bagnol, en hommage à Marcel Bagnol qui est originaire de cette ville. On a travaillé sur Port-Saint-Louis, on avait appelé ça Far Sud, parce qu'il y a une dimension westernienne dans cette ville, hein, les gens ressemblent vraiment à des cow-boys. Et puis on avait essayé de fédérer toutes les villes autour du projet du Grand Pas Marseille, pas entre parenthèses avec un point d'interrogation, parce qu'il y a évidemment ce projet du Grand Marseille qui est dans les clous, mais les villes avoisinantes n'ont pas l'air très favorables. Elles sont en train de fomenter un contre-projet qui s'appellerait le Grand Pas Marseille. Donc on a étudié ça, et cette année on revient pour travailler sur la ville de Martigues.
On va donc passer sur La Grenouille cette petite heure en compagnie de Laurent Petit. C'est une émission dans laquelle également interviennent des chroniques. On va écouter, il y aura la chronique de Laurent Petit un peu plus tard, mais celle aussi de Nicolas Mémin ou des Beaux Parleurs. Et pour commencer, on va écouter ce que nous a proposé Espace Sonore. Donc Espace Sonore, je vous rappelle, ils seront la semaine prochaine à la Gare Saint-Charles. Ce sont des gens qui proposent de se balader sous un parapluie à deux, le parapluie servant de une sorte de parabole sonore pour écouter des sons de façon intime dans la ville et se promener comme ça. Donc je ne me souviens plus des horreurs, mais voici leur chronique.
Un petit peu en dehors de, peut-être en dehors de la réalité, là, quelques moments.
Quand on est dans l'eau, voir à l'intérieur du liquide, c'est là où c'est complètement différent dans la sensation.
Je
me
trompais.
Un autre élément qui donne une autre flottaison. Une double nage.
Elle est baignable, la mare. Hein,
oui, pas... oui, oui, oui.
Ah ben, tu comprends.
Si elle devient plus propre, ouais, pourquoi pas.
T'as cette eau qui va venir à n'importe quel moment. Et quoi. Ouais, autant être paré et en tenue, quoi. Le maillot de bain est idéal dans ces cas-là.
C'est pas souvent, mais ils sautent du pont, on se baigne sur les pontons, on va dans l'eau.
Pour tous, on est à l'aise dans l'eau. Il y a le plaisir de nager, c'est des sensations.
C'est un peu ça, c'est marrant, on se donne des défis.
Mais ça suffit encore.
Plein d'eau.
Non, on n'a pas le droit de le dire parce qu'effectivement, ils disent que c'est pollué.
Je m'en fous. Il fait chaud, voilà, on s'éclate, c'est marrant.
Zèbre, mais elle est largement baignable.
Ah oui, oui. Ah oui, attendez, c'est... Non, c'est la bernache. C'est une oie sauvage, à vrai dire. La bernache ou barnache. Les deux se disent.
On la voit souvent.
Grenouille is beautiful, small is beautiful, small is grenoutiful sur les 3-8. Alors, c'était la chronique d'Espace Sonore, donc un pépin pour deux dans quelques jours à la gare Saint-Charles. Laurent Petit, je crois que l'inventeur de la psychanalyse urbaine s'appelle James Lawson.
Oh là, vous êtes bien renseigné parce que c'est quelqu'un de très peu connu, hein.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui?
De mémoire, il est né à Dresde pendant le bombardement de Dresde, je pense que c'était en 45, et d'une mère allemande et d'un père américain qui ont été parachutés dans la région. Après, il s'échappe de l'Allemagne de l'Est dans les années 60, et puis il fonde le collectif Möglichkeit à Berlin, la MGPU, le mouvement de guérilla politique urbaine. Et il se lance dans la psychanalyse de rue, c'est-à-dire qu'il psychanalyse des gens en ramenant le divan sur place des marchés, dans les cours d'école, dans les ascenseurs même, pour faire des flash thérapies, des thérapies rapides. À un moment, il traverse une grosse dépression, il présente sa démission de la condition humaine, je crois qu'en mai 68, ça passe inaperçu, et il va vivre au Kenya, je pense, en communauté avec des singes bonobos, pendant 10 ans. Il revient dans les années, fin des années 70, et essaie de faire la synthèse de ses recherches, avec toute une équipe, où ils font le tour du mont... Le volcan qu'il y a en Sicile, comment est-ce qu'il s'appelle ?
Le Vésuve,
ouais, il fait le tour du Vésuve avec des adeptes. Et puis il se jette dans le Vésuve, voilà, pour montrer l'exemple de ses théories. Et voilà, et donc il y a quelques-uns de ses travaux qui sont restés. On sait qu'il avait tenté de psychanalyser la ville de Berlin. Et puis donc je me suis inspiré des quelques bribes de travaux que j'ai retrouvés pour lancer ce projet de psychanalyse urbaine.
Ce projet de psychanalyse urbaine, donc vous êtes un groupe, un collectif, c'est quoi, qui est exactement dans la NPU, qui sont les membres de la NPU et qui fait quoi?
Alors on est rassemblés sous forme d'une agence avec principalement deux associés. Il y a Charles Altorfer, qui est alsacien de formation et qui est un peu le project designer. Et il m'accompagne pendant les enquêtes et puis il imagine les traitements urbains qu'on peut proposer aux villes. Fabienne Kemener, elle est bretonne de formation, elle est plutôt agent de liaison. Puis on a quelques sympathisants comme des graphistes, des architectes potentialistes qui nous inventent des projets aussi. Des conseillers ésotériques, un contrôleur. En tout, une petite dizaine de personnes qui gravitent autour de l'agence et qui nous accompagnent plus ou moins sur les enquêtes.
Quand vous intervenez sur les territoires, vous appliquez toujours la même méthode ?
Ouais, on commence par un travail de recherche journalistique où on interroge des experts, hein, des connaisseurs de la ville, le responsable des archives, du patrimoine, le responsable de l'urbanisme, des représentants des associations. On va aussi tenter de rencontrer des cafés. Ici, on a beaucoup travaillé au Flash, par exemple à Martigues, en passant des soirées entières à essayer de recueillir la pensée, la culture locale, les blagues locales. Et puis on essaie de rencontrer par exemple des sorciers, des alchimistes, des guérisseurs quand ça fait partie de la tradition de la région.
Et puis, ça fait partie de la tradition de la région de Martigues ?
Non, on n'a pas trop détecté de sorciers ici. Alors que précédemment, on était du côté d'Annonay en Ardèche. Et là, c'était presque un film fantastique de faire l'enquête.
Donc ça, c'est la première étape de la méthode. Et après ?
Et après, on mouline toutes ces informations pour essayer de détecter, mettre en évidence l'arbre généalogique de la ville, quels sont ses ancêtres et comment elle s'est construite, comment elle a traversé les épreuves de l'histoire, guerre, crise économique, famine, épidémie. Ou ça peut être un événement tout à fait anodin, un saut technologique ou une descente en deuxième division qui peut vraiment affecter des villes fragiles psychologiquement comme Marseille, Saint-Étienne ou Lens. Ça met en évidence des PNSU, points névro-stratégiques urbains, qu'on va essayer de traiter en proposant des truies et des trains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, traitements radicaux urbains, traitements radicaux architecturaux qui vont permettre à la ville de guérir de ses névroses et de parvenir à son plein épanouissement d'ici 2050-2040. Parce qu'on est dans des échelles urbaines, donc ces traitements prennent énormément de temps.
Donc je vous propose d'écouter le résultat de cette méthode, en tout cas une partie du résultat à travers cette chronique de Laurent Petit qu'on a enregistrée la semaine dernière par téléphone et qui est un extrait de la psychanalyse urbaine du Grand Marseille.
Alors, concernant donc la psychanalyse urbaine de Marseille, hein, bonjour à tous, ce qui nous a vraiment interpellé morphocartographiquement parlant, c'est la forme très particulière du vieux port. Ça fait penser à un lieu de pénétration où se sont bien sûr engouffrés tous les courants migratoires tout au long de l'histoire, ce qui fait que Marseille n'a cessé d'enfler et de devenir obèse aujourd'hui et d'être un peu coincé entre la mer et la montagne. Plus intéressant encore, c'est si vous rajoutez à la forme du vieux port le tracé de la Canebière, vous obtenez un diapason à l'envers. Un diapason à l'envers, ce qui montre bien que Marseille est une ville qui ne veut pas se mettre au diapason et qui entretient une sorte d'attitude d'adolescente rebelle, d'adolescente un peu attardée. Ce qui est un problème dans le cadre du Grand Marseille, parce que c'est en étant adolescente qu'on peut fédérer autour de soi des villes avoisinantes. Alors, ce qui nous fait dire aussi que Marseille cultive un côté transgressif, c'est que, historiquement parlant, elle a mal vécu la guerre civile à Rome. Il faut savoir que sous les Romains, Marseille était un peu la troisième ville du monde, après Rome et Carthage, c'est une ville splendide, et que lors de la guerre civile à Rome, elle a choisi le camp des légitimistes, le camp de Pompée. Et ce qui s'est passé, c'est que César l'a mal pris, hein. César était dans le camp des rebelles, et César a assiégé Marseille avant de la prendre par derrière. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par le vieux port, elle a fait le tour, il a défoncé les remparts par l'arrière, C'est peut-être ça qui est déjà à donner l'envie à Marseille d'être dans la transgression. Quelque part, en choisissant les légitimes, elle s'est faite prendre par derrière, d'où l'usage frénétique et maladif d'un mot qui commence par A, N, C et qui est souvent utilisé pour encourager le gardien de but à dégager au Vélodrome. Donc on est devant une ville qui présente un diapason à l'envers, qui est dans la transgression. C'est pour cela qu'en psychanalyse urbaine, on a eu envie de proposer à Marseille de changer son axe directeur, de passer d'est-ouest à sud-nord, via un axe qui irait du Vélodrome à la Porte d'Aix, en passant par la préfecture. L'intérêt, c'est que l'axe nord-sud est beaucoup plus étendu, et qu'en plus, il se termine par le quartier de la Belle de Mai, qui est coincé entre les gares de la Voie Saint-Charles et l'autoroute A7, ce qui fait qu'avec un grand axe, et ce triangle, ça forme une pipe. Une pipe qui serait plus en relation avec le grand âge de Marseille. Si en plus vous rajoutez, vous prolongez Belle de Mai vers le nord, vous allez vers les quartiers nord, dont la force économique réside dans le trafic d'un produit à forte valeur ajoutée, ce qui fait que la pipe deviendra une sorte de calumet de la paix que Marseille pourrait tendre aux villes avoisinantes pour les apaiser. Un peu comme faisaient les Indiens à l'époque de Lucky Luke, par exemple. Et c'est cette transformation ostéopathique de Marseillaise, passer d'un axe est-ouest vers un axe nord-sud, en plus, donnerait une dimension capitale à Marseille, puisqu'on a prolongé cet axe sud-ouest, sud-nord, et qu'à faire le dessin chez vous, eh bien, on voit que cet axe sud-nord passe par Paris, Londres et un point frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Et là, on aurait vraiment Marseille qui prendrait une dimension capitaliste, capitale.
Alors, Laurent Petit, avant d'être psychanalyste urbain, je crois que vous avez été ingénieur en télécom.
Oui, exactement. J'ai fait des études d'ingénieur, puis j'ai pratiqué pendant une vingtaine de mois avant de briser ma carrière pour passer dans le monde merveilleux du spectacle. J'ai d'abord été jongleur, clown de supermarché, clown de parking. Et puis j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui faisait des recherches sur les liens secrets entre Mickey la souris et Michel-Ange, à travers la logique des trois cercles qu'on retrouve dans la tête de Mickey et dans l'œuvre de Michel-Ange. Et ça m'a mis sur les rails de la blouse blanche et des conférences parascientifiques, c'est-à-dire inspirées de faits réels mais qui sont poétisés ou transgresser, enfin déformer, mélanger, remixer à l'excès, enfin pas vraiment à l'excès, mais qui sont pour aller poétiser, on va dire, pour arriver à un registre de spectacle parascientifique, donc qui tournait autour de la science. J'ai fait des spectacles sur les grèves à base d'organes porcins, des spectacles sur la mécanique quantique.
C'était le cabaret philosophique, ça, alors ou
c'était l'époque du cabaret philosophique où là, je travaillais avec deux chercheurs pour la revue Il est déjà trop tard et on cherchait des solutions pour sauver l'humanité. Mais à l'époque, j'étais œnolopédiatre. J'étudiais les effets du vin rouge sur les nourrissons.
Et il y a eu, avant la NPU, je crois qu'il y a eu une expérience aussi avec un collectif d'architectes qui s'appelle Exist.
Exactement, ce sont des jeunes architectes qui travaillaient sur l'architecture éphémère et construisaient des bâtiments en forme de vaisseaux spatiaux, de fusées sous-marins dans des quartiers. Ça crée une vie sociale et j'ai suivi deux, trois de leurs expériences avant de présenter leurs travaux en endossant la blouse blanche et en prétendant être psychanalyste urbain.
L'Agence nationale de psychanalyse urbaine est plutôt de tendance lacanienne que freudienne. Pour quelle raison ?
Alors, on s'inspire des trois grands maîtres, entre guillemets, de la psychanalyse, que sont Sigmund Freud, Jacques Lacan et Carl Jung. Sigmund Freud, pour la dimension un peu sexuelle, c'est-à-dire que les histoires des villes, c'est des histoires de pénétration, de flux et de reflux, de mariage, de divorce, etc. Lacan, c'est du jeu de mots. C'est beaucoup de jeux de mots, donc des sens cachés qu'on retrouve dans le nom des villes. Et Carl Jung, c'est la dimension ésotérique un peu magique qu'on essaie de détecter au travers des rencontres avec des ésotériens, des alchimistes ou des, carrément des sorciers.
Et vous inspirez également de théories urbaines ou...
Ça, effectivement, on a toujours un œil sur l'actualité de l'urbanisme, mais nos connaissances sont un peu limitées. Bon. J'ai l'impression que vous avez du mal à nous prendre au sérieux, mais c'est vrai que l'urbanisme nous intéresse.
Quelle est la première ville sur laquelle est intervenue la NPU ?
Mon Dieu, c'est un souvenir assez douloureux puisqu'il s'agissait de Vierzon. Vierzon, la ville de la chanson, là. On s'est retrouvé dans une ville sinistrée industriellement avec une friche industrielle géante qui était celle de la Société française, hein, qui jadis vendait les petits tracteurs verts dans toutes les campagnes. Elle avait été rachetée par la société Case, une société américaine, et Case en anglais ça veut dire cas. Et puis elle avait fermé ses portes, et une sorte de verrue industrielle énorme au cœur de la ville. On s'était aperçu que la ville en plus avait vécu des scissions sans arrêt, elle s'était découpée en quatre morceaux avant la réunification de 1937, tout le monde s'en souvient. Et la guerre 40, la ligne de démarcation qui était passée en plein milieu de Vierzon et qui avait recoupé la ville en quartier nord, quartier sud. Ce qui fait que c'est une ville qui souffrait d'une schizophrénie dégénérative aiguë. Et elle avait mal vécu la chanson de Jacques Brel, hein. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon.
On a vu ta sœur.
On a vu ta sœur, et comme toujours, etc. Alors que Vesoul a bien vécu cette chanson, parce que si vous allez à Vesoul, il y a un musée Jacques Brel, il y a une plage Jacques Brel, il y a même des pâtisseries Jacques Brel, qui ressemblent à des Jacques Brel, mais c'est en meringue. Ce qui fait que nous, en guise de traitement, à l'époque, on ne maîtrisait pas très bien les techniques, mais on a proposé de refaire une chanson avec la sœur de Jacques Brel, qui s'appelle Francisca Brel, elle a une moustache. Et les habitants de Vierzon ont cru qu'on se moquait d'eux, ils l'ont mal pris. C'est à peine si on n'est pas parti avec du goudron et des plumes sur la tête. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas du tout la technologie. Enfin, là, s'il y a des gens de Vierzon qui nous entendent, je tiens à dire qu'on est prêt à revenir dans la ville gratuitement.
J'ai entendu parler, vous êtes intervenu sur Tours aussi, et j'ai entendu parler d'une opération spirale à Tours.
Oui, alors Tours, lacaniquement parlant, là, vous avez vraiment un exemple intéressant, c'est que Tours, c'est un symbole phallique, hein, la tour, et le tour, c'est un symbole féminin. Donc la tour peut aller dans le tour pour dire que Tours est capable de faire l'amour avec elle-même. C'est une ville extrêmement narcissique, d'autant qu'elle a bâti sa fortune sur l'artisanat de la soie, donc retour sur soi. Donc ça a mis au monde une ville un peu bâtarde. Une ville surnaturelle, une fille surnaturelle, qui est donc Saint-Pierre. C'est intéressant de savoir que Saint-Pierre, c'était une paroisse de Tours, qu'elle a pris son indépendance à la Révolution, elle est devenue la clarté républicaine. Après la Révolution, Tours l'a mal pris, donc elle a mis un canal entre elle et Saint-Pierre. Et en laissant du côté de Tours, l'église et le cimetière de Saint-Pierre. Ce qui fait que les gens ont dû aller à la messe à la nage. Ils se sont noyés, se sont découragés. Ça a fait le jeu des idées progressistes, socialistes et puis encore communistes. Et en plus, quand il y a eu les inondations de 1868, 78 et 58, je ne sais plus exactement, et ben les gens n'avaient plus de cimetière, donc les corps étaient enterrés n'importe comment. Donc ils remontaient. Et Saint-Pierre, à ce moment-là, était rebaptisé Saint-Pierre des Corps. Et une telle coupure entre Tours et Saint-Pierre des Corps, c'est que le développement urbain qui se faisait en spirale était contrarié par le canal qui est devenu après l'autoroute A10, le mur de Berlin, comme l'appelait Jean Royer, le maire de Tours de l'époque, qui séparait vraiment la ville blanche, la ville Tours, de Tours, la ville du Tuffeau, la ville rouge, la ville de Saint-Pierre des Corps. Et nous, on a traité l'autoroute comme un PNSU, un point névrostratégique urbain. Et on a créé, sous l'autoroute, un lieu de réconciliation entre la ville de Tours et la ville de Saint-Pierre-des-Corps, où les gens se rassemblent pour faire des mariages, des barbecues, voire des enterrements. C'est une sorte de pilier peint en rouge et en blanc, ligne horizontale, comme une sorte de balise de détresse. Et c'est pour nous un point de départ d'une spirale de réconciliation universelle collective et urbaine. Enfin, ça marche très bien.
Une sorte de spirale virtueuse. Donc,
Et les gens s'entendent beaucoup mieux entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps depuis. Hein. Si vous voyez ça, dès qu'ils se prennent dans les bras les uns des autres, il y a des couples qui se forment. C'est très émouvant.
Et donc là, la NPU, à l'invitation de Lieux Publics et de Small is Beautiful, depuis quelques jours, enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais en tout cas, quelques jours et aujourd'hui, à Martigues. Alors, Martigues, comment vous sentez les choses à Martigues ?
Alors, Martigues, disons qu'on est, on n'est pas très inquiet pour cette ville. C'est une ville qui a quand même traversé des sacrées épreuves. Pour vous donner des exemples... C'est une ville qui a été fondée administrativement sur décision du roi, Charles IX, en 1581, à une époque où il y avait un morceau de Martigues qui appartenait au comté de Provence, un autre qui appartenait à l'archevêché d'Arles et un autre qui appartenait au vicomte de Marseille. Et c'est une décision administrative qui décide que le tout va former Martigues. Sauf que les trois parties de Martigues ne s'entendaient pas très bien. Et pire encore, c'est que cette année-là, 1581, se déclenche la peste, une terrible épidémie de peste venue de Marseille. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les Martégaux prétendent que Marseille a empoisonné Martigues dès sa naissance. Martigues se remet de cette peste, elle arrive à générer un volume d'affaires aussi important que le port de Marseille, sauf que patatrac, le père adoptif, donc royaume de France, Colbert, décide que le seul port français qui va donner sur la Méditerranée, ça va être Marseille. Donc début de la dépression pour Martigues, qui perd tous ses marins, qui perd de toute sa population, parce que débute encore une autre épidémie de peste, celle de 1720, encore une fois venue de Marseille, ce qui fait que les tensions entre Martigues et Marseille se ravivent encore là, et Martigues sombre dans la dépression, elle se retourne vers son... une dimension embryonnaire, elle redevient le modeste port de pêche qui va vivoter jusqu'au début du XXe siècle. Là, c'est Marseille qui se retrouve coincé entre la mer et la montagne, qui décide de partir dans une politique d'expansion vers l'est. Donc elle fait creuser le canal qui relie Marseille au Rhône, qui passe par le tunnel de Rove, que vous n'avez pas connu parce qu'il s'est effondré dans les années 50. Pour lancer l'industrie à Martigues, Marseille fait aménager le canal de Caronte, c'est ça ? Et puis c'est le père adoptif qui ramène des pipelines, des raffineries, le train, et aussi l'aqueduc autoroutier géant là, qui menace aujourd'hui de s'effondrer. Ce qui fait que, quelque part, le petit port de pêche de rien du tout qu'était Martigues se fait prendre de tous les côtés par des ponts, des oléducs, des pipelines qu'on surnomme ici des pipelines, par un train, par un aqueduc. Ce qui fait qu'elle enfle, elle devient énorme. Sa population est multipliée par 10 en moins de 50 ans. Mais elle maîtrise bien la situation. Grâce à une sorte de grand-mère qui a été pour Martigues Paul Lombard, hein, le maire de la ville qui est resté aux affaires pendant 40 ans et qui va réussir à maîtriser l'expansion urbaine et industrielle en préservant les côtes maritimes et les terres agricoles. Donc c'est une ville qui s'en est plutôt bien sortie des épreuves de l'histoire.
Small is Beautiful sur la grenouille avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et Laurent Petit. On va faire une pause musicale d'ailleurs qui a à voir avec Martigues, une chanson célèbre sur Martigues qui s'appelle Adieu Venise Provençale. Je ne sais pas si vous la connaissez, Laurent
c'est
Petit.
De qui, alors
de Albert.
Albert, je vais écouter ça, à fond au casque.
Et on se retrouve juste après pour la chronique de Nicolas Mémin.
Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours, barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs, au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Cher petit village, au bord de la mer. Je te laisse en gage tout ce qui m'est cher. L'éternel été d'un ciel enchanté où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves. Pays que j'aimais, je dois désormais loin de toi m'en aller à jamais. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays de mes amours. Adieu, cigaros et cigales. Dans les grands-pères, chantez toujours. Barques eaux douces, couleurs, collines rousses de fleurs. Au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays de mes amours. La fillette brune qui m'avait souvent, au clair de la lune, fait de beaux serments. Dans sa jolie main a brisé soudain mes espoirs et toute ma tendresse. C'est pourquoi je veux oublier ses yeux et quitter, cher pays, ton ciel bleu. Adieu, Venise provençale. Adieu, pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales. Dans les grands pays, chantez toujours. Adieu, pays de
Laurent Petit, cette référence de Martigues à Venise, donc Martigues, Villa Cano, Venise, ah. Villa Cano. Donc, vous avez, ça vous avait frappé un peu ici, lors de vos pérégrinations, de vos enquêtes ?
C'est sûr que Martigues a des origines italiennes affirmées. Hein, une vague d'immigration italienne sans précédent qui s'est abattue sur la ville au début du XXe siècle. Mais je n'ai pas vraiment senti, entendu parler italien autour. Il y a des carnaval en honneur de Venise qui s'organise régulièrement chaque année, mais ça nous a pas sauté aux yeux.
Nicolas Mémin est un montreur d'ours en béton ou un urbaniste gonzo. Une chronique dans, il nous a proposé une chronique pour chaque émission de cette série consacrée sur la grenouille à Small is Beautiful. Et là, bah, ça tombe bien, hein, c'est une chronique sur Martigues et plus précisément sur le cratère de Martigues.
Le cratère à Martigues. Le cratère se trouve dans la ZAC Paradis Saint-Roch. La ZAC Paradis Saint-Roch, c'est ce très beau quartier neuf des années fin 60 et début 70 que l'on voit très bien lorsque l'on passe sur le pont de Martigues en venant de Marseille sur la droite. Vous avez ce quartier arlequin avec des HLM habillés un petit peu comme du gruyère avec des panneaux à trous ronds et d'autres à trous carrés et puis des espèces de couleurs marron et vert sur fond blanc. C'est ce quartier un petit peu délirant qui est une des plus belles ZUP-ZAC Grand Ensemble de France qui a été commencé dès la fin des années 60 par ce qu'ils appellent l'immeuble test qui a été achevé en 68 je crois. Qui lui, on le voit très très bien depuis l'autoroute parce qu'il est quasiment au bord. C'est une grande tour blanche qui ressemble aux architectones de Malevich, c'est-à-dire à une espèce de variation sur le thème du parallélépipède, un grand totem sculpté, creusé sur une trame de 90 cm avec des balcons qui avancent, des enfoncements qui deviennent des loggias. Un gabarit tout le temps croissant, décroissant, faussement irrégulier. Une très belle immeuble sculpture, vraiment une des plus belles réalisations françaises de la fin des années 60, et tout ça au prix du logement social, pensons-y. Mais ce n'est pas le cratère. Le cratère, c'est la suite. Donc après l'immeuble test, ils construisent les autres quartiers, notamment le quartier du canal, qui est plutôt vers le canal de Caronte, d'où son nom, qui lui est aussi plus délicat mais plus précieux à apprécier. C'est un appauvrissement de la forme du bâtiment test pour pouvoir faire des économies. Mais vous avez encore des espèces de figures de tours irrégulières qui s'articulent avec des barres. Vous avez cette manière d'habiller par les couleurs, avec des couleurs de pinède un peu automnale. Des cages d'escalier qui sont dans des cylindres ronds, qui sont à l'extérieur du volume des bâtiments. Sur les tours, une espèce de grand motif en zigzag qui reprend les garde-corps des balcons. Et qui dessine une figure molle, un peu comme un spaghetti du sol vers le ciel. Et puis, au milieu des années 70, la prétention des architectes confrontés vraiment à la réalité du terrain et de ce que ça fait les entreprises de béton font qu'ils appauvrissent la forme. Et c'est là qu'on a les plus grandes opérations. J'ai oublié les noms, mais ça a des noms de fleurs, genre les cities, les jonquilles. Ce sont ces immeubles-là qui ont des grands panneaux d'habillage des loggias qui sont des fois à trous ronds, des fois à trous carrés, de ce look de gruyère. Et au milieu de ça, vous avez beaucoup d'aménagements. Alors, des aménagements urbains, dont une dalle très Nanterre ou très, je sais pas, très Bobigny préfecture, très étrange, Bobigny en Provence, avec l'ancien immeuble de la Caweb, là, de la communauté d'Aglo, qui est lui new-yorkais. Alors, c'est New York, Bobigny et tout ça dans la Pinède, avec vue sur le pont autoroutier et les camions Orangina qui passent dans le ciel, et le cratère. Donc le cratère, vous demandez aux gens là-bas, tout le monde le connaît, ils vous l'indiqueront. C'est le centre du quartier, c'est une espèce d'espace vert où pour pouvoir contrer l'écriture très orthogonale des bâtiments, les aménagements sont tous faits en arc de cercle. Et donc vous avez des espèces de petits terrains boulerons, des sentiers qui serpentent en arc de cercle, et un rond, plus grand que les autres, qu'on traverse. Il a deux entrées. Il est à moitié enterré dans un talus. Et vous vous retrouvez là, dans cette espèce de boîte à camembert ouverte vers le ciel, tout en ciment enduit épais, avec une acoustique, évidemment, puisque c'est rond, quoi. C'est un peu comme le théâtre. Donc vous avez une acoustique très forte, quoi, un écho. Et les rumeurs locales disent ceci, qui n'a pas été vérifié par les archives. Disent, voilà, les architectes voulaient faire une piscine. Donc ils ont commencé à creuser la piscine. Ils voulaient faire une très belle piscine ronde au milieu du quartier. Et finalement, faute d'argent, ils n'ont pas pu la faire. Et c'est devenu cette espèce de vide théâtral. Et ce vide théâtral est, alors, une piscine non réalisée, donc une idée de loisir collectif, de truc où on pourrait avoir des piscines dans les grands ensembles, où tous les gens iraient, comme il y a dans les résidences de luxe, en fait. Donc ça, c'est plutôt société des loisirs. Et puis, cette forme ronde-là, c'est aussi un souvenir des grands théâtres grecs, et à cette époque-là, les aménagements extérieurs des grands ensembles, vous avez très souvent des espèces de théâtres, de théâtres à ciel ouvert, en gradin, en demi-rond. Et là, vous retrouvez un petit peu dans la forme quelque chose de cet ordre-là, de la volonté de rassembler les gens et qu'ils discutent ensemble. Et là, vous avez alors le souvenir de l'agora. Et plus que de la société des loisirs, c'est un désir de démocratie, de proximité, où par quartier, on va pouvoir s'assembler et discuter. Donc vous avez tout ça. Une très belle histoire, une des plus belles réalisations architecturales et urbaines françaises de l'époque, à la fois des dimensions théoriques qui vont assez loin, dans des visions très utopiques de la société, et finalement, quand vous y serez, vous verrez, vous y serez bien seul, et il n'y a rien à voir.
Laurent, une réaction à cette chronique de Nicolas Mémin sur le cratère de Martigues ?
Déjà, on connaît bien Nicolas Mémin parce que chaque fois qu'on doit mener une enquête sur la région, on va le consulter. C'est une sorte d'expert en tout genre qui connaît tout de la région, mais jusqu'au moindre format du trottoir au fin fond de Vitrolles. Et c'est quelqu'un qui a aussi un humour truculent et qui nous bouleverse à chaque fois qu'on passe une soirée avec lui et qu'il nous raconte comme un ancien quelque part, comment les villes se sont formées. Vraiment, c'est quelqu'un de passionnant. Mais il a un côté un peu parfois, je dirais... Non, je ne vais pas le dire. Mais je l'aime bien quand même.
Parmi les experts que la NPU sollicite pour réaliser ces travaux, est-ce que vous sollicitez des politiques, des gens qui sont en charge de développement urbain, choses comme ça ?
Alors chaque fois qu'on mène une enquête, on se fait une joie de visiter le service de l'urbanisme de la mairie concernée. Souvent, les politiques en place sont un peu craintifs par rapport à notre venue. Ils pensent qu'on va les bouffonner comme peuvent le faire les humoristes à la télévision, alors que nous, on est plutôt dans le respect de l'homme politique. Hein. Et ce qui fait que, comme en plus ces hommes politiques ont souvent des calendriers chargés, c'est rare qu'on en rencontre. On aime bien rencontrer des politiques à la retraite. Ils ont une langue bien pendue et possèdent une excellente connaissance du terrain. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr qu'un rencontrer un maire en activité, ça nous est quasiment jamais arrivé, à part, bien sûr, Alain Juppé, lors de la communauté urbaine de Bordeaux, l'étude de la communauté urbaine de Bordeaux, et qui nous a carrément invités à manger. Et on était vraiment émus.
Le 5 octobre dernier, à Martigues, la NPU a organisé une opération divan, c'est-à-dire donc que là, les habitants sont invités à s'allonger sur des fauteuils, des canapés, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà.
Divan, des divans, des transats.
Voilà, ouais, des transats. Les personnels de la NPU leur posent des questions. Quel type de questions vous posez ?
Alors on leur pose ce qu'on appelle entre nous un questionnaire chinois, hein, c'est-à-dire un questionnaire métaphorique et poétique pour éviter que les gens nous disent « Ah ben, y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes pour se garer, il y a des problèmes de crotte de chien. » Donc pour sortir de ces problématiques-là, on leur demande par exemple de nous dire si Martigues ressemblait à un fruit ou à un légume, quel fruit ou légume ça serait si c'était un animal. Alors le fruit qui revenait souvent, c'est la pêche. C'est une ville qui a la pêche. Mais c'est aussi le pamplemousse, parce que c'est une ville avec beaucoup de quartiers différents, comme le pamplemousse. Ou c'était le fruit de mer qui revenait, parce que c'est une ville fort attachée à la mer. Et c'est un peu le bulot qui ressemble, semble-t-il, le plus à Martigues.
Ils se prêtent au jeu facilement, les gens ?
Les gens adorent ça. Alors, ils donnent des réponses étonnantes, parfois très classiques, comme l'animal qui ressemble le plus à Martigues, c'est le poisson. Mais quelqu'un nous a parlé du dauphin, d'autres l'écureuil, parce que c'est une ville qui aime bien épargner, qui est près de ses sous. Et le dragon. Le dragon parce qu'il y a des jets de flammes dans le ciel à cause de l'industrie pétrolière. Le plus intéressant, ça a été la question où on demandait aux gens de comparer la ville a un titre de film. Alors c'est La cuisine au beurre qui est souvent revenu, parce que vous savez que c'est un film qui a été tourné dans la région. Mais on nous a parlé aussi de Sur les quais, Autant en emporte le vent. Il était une fois dans l'ouest, mais dans l'ouest de Marseille. Et il y a eu des clins d'œil à Paul Lombard, hein, qui a été maire de la ville durant près de 40 ans, comme un film qui s'appellerait Bienvenue en Lombardie et La bataille de Popolgrad. Parce qu'il y a quand même un problème de succession pas facile ici à Martigues. Donc c'est une façon d'exprimer cette problématique par la bataille de Popolgrad, puisque Paul Lombard s'appelle Paul. Donc ça, c'était des réponses assez savoureuses.
Sinon, comment le travail de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, la NPU, est perçu par les psychanalystes et les urbanistes normaux, entre guillemets ?
Alors, on reçoit un très bon accueil des urbanistes et des architectes qui voient là une discipline toute nouvelle se profiler. Et on est sollicité de plus en plus pour participer à des projets d'architecture, des projets d'agence d'urbanisme. On participe à des appels d'offres. Les psychanalystes sont un peu craintifs parce que c'est quand même une discipline, la psychanalyse, qui s'est fait attaquer de toutes parts, traîner dans la boue, voire humilier à de nombreuses reprises. Donc ils pensent a priori qu'on fait partie des gens qui vont encore se moquer d'eux encore plus. Puis on arrive à les rassurer en les prenant dans nos bras. Et l'intérêt pour nous de les prendre dans nos bras, c'est que c'est souvent des psychanalystes assez jolis, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça nous permet de les faire parler. Et souvent, les psychanalystes ont une bonne connaissance du terrain et aussi un sens de la poésie assez étonnant, sens du jeu de mots, et ils nous aident beaucoup dans nos enquêtes quand ils se laissent approcher. Ce qui n'est pas toujours gagné.
L'échelle d'intervention pour la NPU, ce n'est pas forcément que des villes. Je crois que vous avez travaillé à l'échelle d'un département déjà.
Exactement, on a travaillé à l'échelle du département des Côtes d'Armor, hein, département 22. On avait baptisé l'intervention 22 Vlaïk, en référence à la névrose alcoolifère qui est extrêmement présente là-bas. On va l'an prochain essayer de réconcilier les départements de la Drôme et de l'Ardèche, l'opération Drôme-Ardèche. Et après, on va essayer de psychanalyser toute la Belgique pour essayer de la sauver.
Ah, carrément, à l'échelle d'un pays.
Oui, parce que l'objectif final, c'est quand même de psychanalyser le monde entier au travers d'un plan quinquennal qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2013. Ça, je crois que c'est un mardi, à 23h, à New York, devant le siège de l'ONU. Alors, c'est un travail colossal. Donc, si parmi vous, il y a des ambassadeurs qui nous écoutent, voire des princes ou des rois, ou même des présidents, ou des enfants de présidents, c'est jamais, ça serait intéressant que vous vous manifestiez sur le site de la NPU. Vous nous envoyez un mail à info@npu.fr. pour nous donner des pistes. Parce que le problème, vous savez, en psychanalyse, c'est que c'est le pays qui doit faire la demande. Mais il faut que les gens...
vous ne travaillez que sur commande.
Bien sûr, on attend que le téléphone sonne. Donc il faut, s'il y a des rois, par exemple, qui habiteraient en Amérique du Sud ou en Afrique et qui voudraient faire psychanalyser leur pays, ils n'ont qu'à nous envoyer un mail ou nous téléphoner.
Travailler que sur commande, mais en même temps, c'est pas mal. Vous n'avez aucune concurrence, je crois. Vous êtes la seule agence nationale de psychanalyse urbaine au monde.
Oui. On a d'ailleurs créé une agence internationale, hein, la Urban Psychoanalysis International Agency. Ça fait UPIA, mais en anglais, ça fait UPIA. Et c'est à l'image de la bonne humeur qu'on va essayer de mettre dans l'urbanisme de demain. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est seul sur le marché. On va essayer de former des psychanalystes urbains dans les années à venir. Ce qui fait que l'échéance fin 2013, ça me paraît un peu court pour psychanalyser le monde entier. On va peut-être retarder ça à 2014, en sachant que certaines personnes prétendent que la fin du monde devrait tomber fin 2012. Ça serait dommage de présenter les résultats alors que le monde serait fini. Alors on ne sait pas trop. Mais on continue à travailler.
Alors, Laurent Petit, vous êtes Lillois et vous savez qu'ici, dans le coin, on parle souvent de Lille en référence à cette capitale européenne de la culture qui a eu lieu en 2004, puisque nous, ça va être notre tour en 2013. Est-ce qu'en tant que psychanalyste urbain, vous avez pu constater, après cette manifestation, un mieux dans la métropole lilloise ?
Ah oui, effectivement. Alors là, pour le coup, c'est sûr que cette manifestation a fait énormément de bien à la ville de Lille. Elle s'est complètement renarcissisée. Il faut savoir qu'avant 2004, les Lillois étaient déprimés. Ils baissaient la tête quand on leur parlait. Ils parlaient en s'excusant. Si vous leur disiez bonjour, ils commençaient par dire merci. Enfin, c'était vraiment des gens beaucoup trop humbles, qui n'avaient aucune fierté. Qui étaient même un peu paranoïaques à force. Et grâce à cette manifestation, ils ont retrouvé toute leur dignité. Ils arrivent à vous regarder en face sans se mettre à pleurer ou baisser la tête. Et ça a fait un bien fou à la ville. Ça, c'est clair. Hein, que c'est le jour et la nuit. Et maintenant, Lille est connue dans le monde entier. Dès que vous dites « Ah, j'habite Lille. Oh, c'est incroyable. Comment vous faites pour être aussi intelligent ? Oh, vous êtes vraiment dynamique. En plus, vous êtes gentil. » Enfin. Extrêmement facile d'utiliser le fait d'être lillois dans la vie courante parce que ça vous ouvre toutes les portes. C'est vraiment incroyable. Ça a changé toute la ville.
Avec toutes ces villes que la NPU a psychanalysées urbainement, est-ce que du coup, il y a quelque chose qui ressort, les mêmes névroses qu'on retrouve dans un peu partout, dans chaque ville?
Effectivement, on retrouve des points communs, des centres de ville qui se vident, on lui souvent la ville est morte, il se passe plus rien. On a aussi des problèmes de deuil industriel à faire, des problèmes de relance économique à trouver, de recréer des dynamiques de territoire. Oui, oui, on a des points communs. Hein. Les gens souffrent à peu près des mêmes névroses à des nuances près. Il y a des villes qui sont en plein boom, en pleine dynamique, d'autres qui sont au fond de la dépression. Donc, à chaque fois, nous, on essaye de positiver et de renarcissiser les villes pour qu'elles arrivent à se projeter de nouveau vers l'avenir.
Quelles sont les villes que vous n'avez pas encore psychanalysées et que vous rêveriez de psychanalyser, Laurent Petit ?
Alors qu'il est... on n'a pas encore psychanalysé de villes dans l'Est de la France, à cause, je pense, de la problématique du passé allemand, qui n'est pas encore digérée. Ça, c'est pas évident. Dans la région, on voudrait psychanalyser Vitrolles, qui est un cas à part, qui a suscité beaucoup de polémiques. On aimerait psychanalyser Calais, à cause du problème des réfugiés. Avant de partir vers la Belgique, Alger, Ouagadougou, au Burkina Faso, pour ensuite aller vers la Russie, les États-Unis, ça serait bien. Avant de s'attaquer à la Chine et l'Inde, qui sont quand même des mastodontes, et ça, c'est pas gagné. Et puis si on peut passer par des plus petites villes comme l'Uruguay, en Amérique du Sud, la Roumanie, ça peut être intéressant.
Jérusalem ?
Jérusalem, ça c'est sûr que ça va être le bouquet final. Parce qu'on va essayer d'encercler le bassin méditerranéen avec Alger, le Caire, qui se profile à l'horizon, Naples, là ça va pas être facile. Je ne sais pas si on va s'en sortir vivant. Et on voudrait terminer effectivement par Jérusalem. Parce que c'est vraiment un centre névrotique mondial sans précédent. Et je crois qu'il y a des solutions à trouver. Mais il faut quand même qu'on se fasse la main avant. Là. Il faut pas attaquer ça n'importe comment. C'est pour ça que le passage par Alger s'annonce à la fois délicat, mais c'est une étape à passer pour pouvoir aller plus loin.
Est-ce qu'on va revoir, on arrive à la fin de cette émission, est-ce qu'on va revoir la NPU sur Marseille bientôt ?
Alors écoutez, avec lieu public, on a des projets en 2012-2013 peut-être via Marseille-Provence-Côte d'Azur 2013, hein, la capitale européenne. Peut-être via une exposition à la Chambre du Commerce. On étudie ces dossiers et via un projet qui risque de se profiler à l'horizon, oui.
Merci beaucoup, Laurent Petit, d'avoir passé ce moment avec nous. Donc, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, en pleine action à Martigues aujourd'hui et peut-être bientôt donc de nouveau du côté du Grand Marseille et du Grand Pas Marseille. En tout cas, Laurent Petit, on continuera à le retrouver à travers ses chroniques jusqu'à la fin de ses émissions consacrées à Small is Beautiful sur la grenouille jusqu'à samedi prochain. Je vous propose maintenant d'écouter les Beaux Parleurs qui sont un petit groupe de gens aussi qui nous proposent des chroniques quotidiennes pour cette émission.
Proverbe à titre !
Des beaux parleurs.
Aïe.
Titre. Marché commun. Laurent, une idée ?
Mieux vaut marché commun que courir comme deux.
Le mot du fictionnaire.
Des beaux parleurs.
Non ! De Jean-Georges Tartare !
Mensonge, noir péché. Il faudrait demander au prêtre s'il travaille parfois en noir. Est-ce que les inspecteurs du travail sont au cul du culte? Est-ce que je peux quêter pendant mon spectacle si je bénis mon fidèle public? À méditer. Vite un séminaire!
Oh, l'agenda du jour?
C'est du lendemain!
Dimanche 9 octobre à Marseille, journée rouge. Faites un plein gratuit de spectacles. Égarez vos oreilles par que l'on chante,
les pieds dans l'eau aux Danaïdes, prenez-en plein les yeux. Des nouvelles fraîches sur www.lieupublic.com. Et si vous n'avez pas internet, .info au square Stalingrad, à Marseille bien sûr.
Les beaux parleurs.
Is beautiful sur Radio Grenouille. Grenouille is beautiful. Smile is grenoutiful. Demain, c'est dimanche, jour du Seigneur. Pas d'émission. On se retrouvera lundi, même heure, même onde, en compagnie de Laou, qui présentera pendant 3 jours Reprendre son souffle à la gare Saint-Charles, une performance visuelle et sonore pour 3 marionnettes. On sera également lundi en compagnie de Théâtre à l'envers, qui seront également de mardi à jeudi prochain à la gare Saint-Charles pour des concerts scénographiés, donc lundi 18h. Je signale également que la Grenouille, tout en étant à Martigues, à Aubagne, à Marseille, à Small is Beautiful, est également à Bordeaux, Evento. Evento, ce sont des mécréants, pas de repos le dimanche, donc 9h30, inventaire désinventé, et 11h, l'éventail d'Evento sur les 3-8. Toutes les infos détaillées de tout ça et des sons en écoute sur le site de la Grenouille, radiogrenouille.com. Merci à Sébastien Gély qui était à la technique et bonne continuation à vous tous.